Et qu'est-ce que tu peux nous raconter de la situation de ton fils?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, suite à ce qui nous est arrivé à Châteauroux, donc nous, on a monté le collectif, et le collectif ne sert pas à rien, justement, puisqu'il y a une famille de... Mon fils a été transféré à Orléans-Saran. Donc, il y a une famille d'Orléans-Saran qui a pris contact avec nous, qui, eux, ont un contact qui est Maton, à la prison, pour me prévenir, donc samedi, il devait être vers 11h midi, pour me prévenir que justement mon fils, samedi matin, au mitard, a réclamé ses affaires, qui lui ont refusé. Il était au mitard depuis le jeudi, qu'il a réclamé donc ses affaires et de pouvoir prendre une douche. Et il a insisté, et de là, ils l'ont frappé. Donc, d'après le maton, il lui aurait mis, il l'aurait mis tout habillé sous la douche, assigné de coups de poing. Il lui aurait mis une balayette et il y en a un qui lui est monté dessus. Il faut savoir que mon fils a des soucis de santé, qu'on a appris récemment, d'ailleurs, en faisant des bilans à Saran, au niveau du cœur. Donc, il a une anomalie cardiaque et bien sûr, il n'y a pas de suivi médical poussé. Voilà. Donc, suite à ça, samedi, j'ai alarmé le collectif, un petit peu tout le monde et tout. Et samedi et dimanche, on a bloqué les standards de la prison de Saran. Donc, je vous cache pas, ils n'étaient pas très contents. Et je pense même que le monsieur, aujourd'hui, il a dû se mettre en arrêt de travail pour dépression, parce qu'à la fin, il n'en pouvait plus du tout. Donc, voilà. À la fin, il ne répondait même plus, ou alors carrément, il hurlait. Donc, voilà. N'empêche que mon fils a été passé à tabac, et ce que je crains, c'est que demain matin, j'ai un parloir. C'est d'arriver là-bas et de ne pas avoir mon parloir. Donc, si ça se passe comme on le pense, puisque c'est ce qu'ils nous ont fait à Châteauroux, donc pourquoi ils ne nous le feraient pas à Saran? Moi, j'ai prévu de m'enchaîner à un poteau là-bas. On a une liste de journalistes qui sont déjà au courant de ce qui s'est passé, que j'ai prévenu pendant le week-end et ce matin. Et un peu tout le monde. Et on fera un appel pour que je sois rejoint par qui aura envie de me rejoindre là-bas.
Et parce que, en fait, un coup, il y avait déjà eu... Et des maltraitances envers ton fils, et il t'avait refusé un parloir, c'est ça que tu dis?
Alors en fait, mon fils, quand il était à Châteauroux, c'est un petit peu compliqué, suite à une drague au départ d'un personnel du CP de Châteauroux, que j'ai remballé, j'ai eu des soucis avec la matone qui a accueilli les familles. Et du coup, ça a créé un acharnement sur mon fils à l'intérieur. Donc, ils l'ont mis 44 jours consécutifs au mitard. Ça a engendré pas mal de problèmes. Donc, mon fils a déposé plainte pour attouchement sexuel. Moi, derrière, j'ai déposé plainte parce qu'il y a un maton qui est rentré dans notre parloir en m'accusant de, j'emploie ces termes à lui, de lui bourrer le cul de stupéfiants. Alors que mon fils était systématiquement fouillé à nu, ils ont jamais rien trouvé sur lui. Donc voilà, ça a engendré une suspension de parloir, ça a engendré une interdiction de rentrer dans l'établissement. Donc quand j'emmenais mon gendre, j'étais obligée de le déposer devant la prison. Ça a engendré que je me fasse interpeller par la police parce que j'attendais à l'extérieur de la prison mon gendre et mon petit-fils. Et puis une autre famille que je déposais aussi, ça m'a engendré pas mal de soucis. Donc, et pour mon fils, du coup, comme ils ont vu qu'il y avait des plaintes derrière, les matons, eux aussi, ont déposé des plaintes, qui lui a valu un passage au tribunal le 30 mai. Et le 30 mai, il a pris un an de plus de prison. Ce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il a 20 ans, il en est à 8 ans de prison.
C'était quoi les chefs d'inculpation?
C'est quoi? Parce que là, en fait...
Menace de mort...
Moi, c'est ça, c'est toujours... Outrage, rébellion, menace de mort.
Outrage, rébellion... L'avocate des matons a fait valoir que leur famille avait été menacée à l'extérieur, alors que je suis toute seule avec mes trois enfants, j'ai pas de famille, qui puisse intervenir. On n'a même pas d'amis qui puissent intervenir pour nous défendre ou quoi que ce soit. Donc personne de leur famille a été menacé. Enfin voilà. Enfin il y a eu tout un tas de. Et puis on s'est retrouvé avec un juge qui ripanait, avec le procureur. On s'est retrouvé avec une salle d'audience où on aurait dit que on emmenait je ne sais qui. Enfin c'était blindé de policiers. Il y avait les stupes là-bas. Enfin c'était. Il aurait fallu médiatiser le procès.
Et parce que là, à ce moment-là, en fait, il y avait pas encore, tu faisais pas partie encore du collectif, vous étiez isolé en fait à ce moment-là ou...
En fait, à ce moment-là, je venais tout juste de créer un groupe sur Facebook, un groupe, et je venais tout juste de prendre contact avec l'envolé.
D'accord.
Voilà. D'ailleurs, le jour où il y a eu l'altercation. Avec la matone, enfin l'altercation, c'est même pas une altercation, c'est la matone qui a complètement pété un câble, qui est devenue complètement hystérique. J'étais ce jour-là au téléphone avec Sylvia. Donc Sylvia a tout entendu. Je suis restée zen, maître de moi-même, enfin voilà, et elle était complètement mais hystérique. C'était voilà. Et c'est moi qui me retrouve avec une plainte de cette personne pour menace de mort, quand même. Alors qu'il y avait des témoins ce jour-là. Je me suis fait embarquer par les flics ce jour-là. Ils m'ont palpé devant... J'ai 43 ans, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Hein. Ils m'ont palpé devant l'établissement. Ils m'ont monté dans le fourgon. Enfin, voilà, ça a été vraiment... Mais c'est eux qui sont traumatisés et nous rien. Voilà.
De toute façon, ils sont toujours passés pour les victimes.
Ah oui, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont pas d'une, ils sont pas victimes. De deux, leur travail, on leur a pas imposé, c'est eux qui l'ont choisi. Donc voilà, ils sont formés. Après, je veux bien qu'on me dise qu'il y ait des détenus récalcitrants, peut-être. Oui, je veux bien. Mais voilà, ils le sont pas tous. Et même les détenus récalcitrants, à la limite, j'ai envie de dire. Derrière, il y a quelque chose qui quelque chose qui se cache derrière. Mm-hmm. Il y a forcément quelque chose qui fait que ces gens-là en arrivent là.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Mm-hmm. Bon, merci, Lydia.
Ben, bon. De rien.
Maintenant que tu es déjà en contact avec un volet, avec Passe-Muraille, avec des différentes radios, et vous avez fait déjà votre collectif de soutien. Déjà, vous ne serez pas seul la prochaine fois, j'espère bien, hein, que ça ne va pas être la même salle d'audience au tribunal, s'il y a une
prochaine fois. J'espère juste que là, ils n'iront pas porter plainte contre mon fils, parce qu'ils ne feront pas de mon fils, ça c'est clair, net et précis, un deuxième Fabrice Bourhomme, ça c'est sûr. Mmh. Ils ne lui feront pas des procès, et il ne passera pas sa vie en prison, il a que 20 ans. Et ça, je vais me battre pour...
Il ne faut pas que ça se produise.
Et puis, si je peux me permettre de dire une dernière chose, s'il y a des avocats qui écoutent, parce que on est souvent lâchés par les avocats aussi, on a très, 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 très d'avocats qui acceptent de nous suivre vraiment jusqu'au bout. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'avocat.
Non, c'est clair. C'est clair qu'il faut absolument monter un comité d'avocats que les familles peuvent solliciter dès qu'il y a un problème et très rapidement, parce que souvent ça se passe dans les 48 heures après les faits. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui manque. Mais par expérience, on l'a vu à partir des manifestations contre la loi travail, il y a des collectifs d'avocats qui se sont mis en place pour soutenir les manifestants arrêtés. Il faudrait que ces avocats ou d'autres, en tous les cas des avocats comme ça, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble, se constituent pour répondre aux familles et aux prisonniers qui se battent ou qui essayent de réagir contre la violence pénitentiaire et puissent travailler en plus à des tarifs aide juridictionnelle, ou en tous les cas à des tarifs accessibles, puisque souvent les gens qui sont en prison n'ont pas de fric, hein, donc on va pas aller leur donner de l'argent qu'on n'a pas. Et ce serait vraiment peut-être une des premières choses qu'il faudrait faire pour être efficace.
On fait un appel du coup aux avocats qui écoutent Radio Galère.
S'il y en a.
S'il y en a. Mais il doit y en avoir, il y a vraiment de tout dans ce monde.
Peut-être on va redonner les coordonnées du collectif à la fois pour les familles.
Alors,
et
déjà,
pour les avocats.
Déjà en effet, ouais, on peut redonner le numéro des collectifs. Tu l'avais pris en note tout à l'heure, Nadia, si tu veux le.
Ouais, à moins que tu veuilles le redonner.
Alors, Lydia, nous, on nous avait dit. Alors, Adeline, t'es encore en ligne ?
Oui, oui.
C'était bien le 06 11 61 20.
62 31.
Oui, c'est ça.
06 11 61.
Et c'est le collectif
62, 31.
De soutien aux prisonniers de France. Voilà, c'est ça.
Harcèlement physique et moral.
Harcèlement physique et moral. 06 11 61 62 31.
Super. Eh ben, merci en tout cas, Adeline et Lydia. Vous vouliez rajouter quelque chose ou bien ?
Oui, moi je vous dirais.
Alors. Qui est-ce qui parle ?
Vous remarquez aussi tous, c'est Adeline.
Adeline, merci.
C'est pour vous remercier tous d'être là aussi pour nous et d'être venus aussi pour mon mari. Et pour vous dire aussi que dès que nous saurons les dates pour les manifs, on vous appellera toutes les radios pour lancer un appel pour rassembler le plus de monde possible.
Merci de nous tenir au courant, vraiment. On appréciera.
Et j'espère qu'on se verra sur place personnellement, dans la même manif.
Et toi, Lydia ?
Et ben moi aussi, je vous remercie énormément. Et puis, de votre soutien, de nous donner la parole, tout comme l'envolée. Et puis, comme Adeline l'a dit, dès que les manifs se mettent en place, on vous contacte pour ramasser un maximum de personnes. Et puis, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci à toi plutôt. Ouais.
Au revoir. Bon courage à vous.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
À très bientôt.
À très bientôt.
Et on va juste faire une mini pause avec un petit morceau de rap chilien qui s'appelle Escribo R, rap con R de revolución.
Vive la Chile.
Aquí explota. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. Así suena, bro. Rap crudo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o pa' contar la realidad y
rebelarse contra el poder.
Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea a mí, dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, pero soy humano con defecto para igual que el reto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que
cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, güey, y vacilón, simplemente porque de carrete y hablo reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya, no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap, y no vale una amiga lo que diga todo el mundo, si los perros chillan significa que les pica el punto. Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbos. Estas son mis trincheras, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución.
Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad.
Alors, on revient sur Radio Galère, à l'émission. Vous êtes en train d'écouter l'émission Passe-Muraille sur Radio Galère. Si vous voulez nous joindre, il y a le numéro qui peut nous mettre directement avec l'antenne au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Et là, actuellement, on attend l'appel d'une personne qui va également témoigner. Donc, on va vous la passer. Bien. Elle est là ? Ok. Alors, on écoute. Bonsoir, Sylvia.
Bonsoir, Sylvia. Salut.
Salut.
Salut. Donc, on t'a invité pour la soirée Femmes face à la prison le 8 juillet, mais tu ne pouvais pas venir.
Non, je ne pouvais pas vous dire. Et qu'est-ce que j'aurais aimé être là pour parler de toutes ces filles qui sont à l'intérieur et
pourquoi
que j'ai laissé derrière moi, puisque... puisque moi-même, je suis une ancienne prisonnière.
Donc, c'est-à-dire, le sujet de cette femme face à la prison, et tu fais un petit peu la totale dans cette question, non? Dans plusieurs, c'est-à-dire comme proche des prisonniers, des anciens prisonniers, des prisonniers actuels, toi aussi, tu as fait la prison, et en plus, tu fais l'envolé. Et si tu veux savoir... Il y a là Nadia aussi, qui elle aussi a été invitée à la soirée Femmes face à la prison.
Et elle n'a pas pu venir non plus.
Je connais aussi très bien.
Salut Sylvia.
Par contre, elle est là maintenant à la radio, personnellement, donc vous pouvez même échanger un petit peu des idées. Mais
avec plaisir.
J'aimerais déjà que tu racontes un petit peu ton histoire, ou tout ce que ça t'inspire, cette question Femmes face à la prison.
Alors, tu veux en fait que je te raconte comment ça se passe à l'intérieur pour les femmes. Je suis désolée, il y a du bruit. Tu vois, c'est avec le feu d'actualité, regarde, t'entends les sirènes. C'est pas pour moi. Je laisse passer les sirènes.
Nous, donc, on t'entend bien, par contre.
Ah, c'est vrai, vous nous entendez.
Ouais, carrément.
Je vais faire des plans, je suis navrée.
Pas de soucis.
Donc, en fait, j'ai été amenée à l'incarcération. Déjà, il faut savoir que je connais les parloirs depuis l'âge de 7 ans, puisque j'ai un papa qui est un ancien prisonnier. Donc, la prison, ça, c'était pas... Quand je suis tombée en 2011, la prison n'était pas inconnue indirectement. En fait, je connaissais la prison par rapport au parloir. Ensuite, j'ai connu le fait d'être visitée, ou j'ai connu les chantages de surveillants, par exemple. C'est-à-dire que j'ai vu des mamans en prison qui pour voir leur fille ou leur enfant se voyaient vouées au chantage par l'administration pénitentiaire. Tel que si vous respectez pas l'ordre, vous verrez pas votre enfant. Alors que c'est pas ils sont pas aptes et ils sont pas aptes à décider de ça parce que tu ne respectes pas le règlement à l'intérieur. Un refus de parloir, ça se passe à l'intérieur d'un parloir quand il y a un conflit à l'intérieur. Déjà ça, j'ai vu ça. J'ai vu des femmes des pays de l'Est. Beaucoup de femmes de pays de l'Est où on ne va pas dire qu'on les force à l'avortement, mais on les amène à l'avortement. C'est très grave, hein, ce que je dis. Hein.
C'est-à-dire, tu peux nous expliquer mieux ?
C'est très grave et je l'assume. Hein. Alors, ouais. en gros, quand les femmes, quand on arrive au quartier des arrivants et que ces femmes-là, elles sont enceintes, on est reçu par toute l'administration pénitentiaire, telle que le directeur, le SPIP, tout ça. Là, le problème qui se pose, c'est que, non, parce que je suis dans la rue, on essaie de me parler en même temps, je t'explique, je me fais draguer dans la rue en même temps. C'est ça d'être belle, la
classe. T'es à Marseille ?
Je suis désolée, je recommence plus. Non, je suis à Paris. Je suis à Paris. Et donc, en fait, la SPIP fait comprendre à ces femmes qui arrivent des pays de l'Est, enfin la SPIP de l'époque, peut-être pas celle de maintenant, qui disait que l'incarcération c'était très dur pour ces femmes-là, que accoucher en prison c'est pas évident. Faut savoir que j'étais à Fleury-Mérogis. À Fleury-Mérogis, c'est une prison qui où il y a une nurserie où les femmes peuvent accoucher à l'intérieur de la détention, mais il n'y a que 15 places. Donc forcément, ça se bouscule au portillon. Et le fait que ces femmes-là accouchent en France, ça devient, elles ont un bébé français à la finale. Ce qui fait que ça peut leur donner éventuellement une nationalité française. Voilà, et ça dérange. J'ai vu des femmes aussi, une femme qui avait eu un cancer de l'utérus, pareil, une yougoslave, qui lui ont dit madame, on vous soignera pas, parce que dans un an vous êtes expulsée chez vous et vous vous ferez soigner chez vous. En gros, pendant un an, la maladie peut évoluer. Voilà. Donc j'ai vu que des cas comme ça. Beaucoup, j'ai vu Gourdana mourir en cellule d'un manque de soins, d'un arrêt du cœur. Je peux en dire des tonnes et des tonnes des histoires de femmes en prison.
Ouais, tu veux dire qu'en fait, il n'y a aucune prise en charge au niveau de la santé ?
Aucune. Ou...
Ouais.
Aucune. Je peux pas dire aucune. Ouais. Mais très peu. Très peu parce que déjà on était 400 femmes. Il y avait un docteur.
Il y avait pour
400 deux comment ?
Pour 400 personnes, un médecin.
Il y avait un médecin, il y avait deux infirmières bonnes sœurs. Donc elles nous faisaient des piqûres au secours. Des piqûres, on était mal 2 semaines dans le bras. Hein. Bref. Ensuite, parce que la DT polyose, on était obligé, si on voulait travailler, on était obligé de faire le vaccin de la DT polyose. Donc c'est un vaccin en 3, bref. Et donc voilà, ce qui fait que quand j'ai vu leur tout, par exemple, je vais vous expliquer un cas, il y a deux filles qui vont se battre en promenade. Ouais. Ça arrive, on peut pas s'aimer toutes, c'est pas possible. Ça reste un lieu d'enfermement, donc c'est déjà tous les sentiments sont quadruplés. Ce qui fait que à un moment donné, les cerveaux ils bouffent. Et donc, quand il y a deux cerveaux qui bouent en cours de promenade, ça peut donner une belle bagarre. Et donc, ils vont séparer les deux personnes, ils vont les mettre dans une promenade différente. Mais le jour où moi, je vais mal parler à quelqu'un de l'administration pénitentiaire, ils vont me remettre dans la même promenade de la personne pour que je me rebagarre avec et pour que j'aille au mitard. Un exemple, par exemple, de manipulation.
Oui. Voilà d'où vient la violence, non ? Intérieure.
Voilà d'où vient la violence. Ah, je peux vous parler aussi de, parce qu'on nous parle souvent de radicalisation, en détention, ouais. Mais le conflit des races et des religions, c'est eux qui la font. Quand on arrive au quartier des arrivants, ils ont une espèce de feuille avec des adjectifs dedans, comme violent, suicidaire, sociable, ne mange pas de porc, voilà. En gros, c'est ça. Ça veut dire que ceux qui ne mangent pas de porc, ils sont entre eux. Les blacks, ils sont entre blacks en cellule. Les Chinois, ils sont entre Chinois en cellule. Les Espagnols, ils sont entre Espagnols en cellule. Ce qui fait que ça fait des groupes. Donc en prison, chez les femmes, il y a les Roumaines. Là, il y a les Yougoslaves. Il y a les Brésiliennes. Il y a les Chinoises. Il y a les femmes de banlieue, de Paris, qui se mélangent toutes entre elles. Voilà. Et arrivé à un moment, ça peut faire des conflits de race et de religion. Voilà. Mais moi, je n'ai senti aucune radicalisation, en tout cas chez les femmes en détention. Aucune. Voilà, parce que je tenais à le dire, parce que souvent on parle de ça, j'entends beaucoup ce sujet-là à la télé, puis nous on en parle beaucoup aussi à l'envolée, parce qu'on essaye justement de faire comprendre que c'est pas parce que t'es aujourd'hui dans une religion que t'es forcément radicalisé. Voilà, aujourd'hui moi je connais des gens qui sont mis à la prière, qui la faisaient pas en entrant, mais qui ont fait la prière à l'intérieur parce que c'est une solution pour eux de rester vivants, en fait. Tout simplement. Ouais. Ça leur donne une espèce de force qui puise de nulle part, et ce qui fait que ça leur permet de rester vivants et de pouvoir être fort face à l'administration pénitentiaire.
Et donc, on peut dire que ton propre histoire qui t'a fait pousser pour faire aujourd'hui l'embolée ou plusieurs autres activités, et en réalité, cette expérience, tu partages avec, par exemple, exactement avec Nadia, ou avec Adeline,
exactement,
ou Lydia,
exactement,
non?
Lydia, oui, complètement.
Et parce que toi, à l'époque où tu étais incarcérée, en fait, tu écrivais déjà à l'envolée,
Je connaissais l'envolée via une personne qui était dans l'émission, qui a fait l'émission plus tard avec nous.
Ouais.
Et donc, ouais, j'en entendais parler à l'intérieur. Par contre, non, j'écrivais pas, j'écrivais qu'à mon amoureux, en fait, pour être sincère.
Ouais.
C'est mes heures à écrire à mon amoureux, voilà, mais ou à ma famille, à mes proches, mais non, je, mais par contre, je gardais au coin de ma tête tout ce qui se passait.
Ouais.
Ça c'est sûr. Par exemple, quand on m'a attrapé en cours de promenade parce qu'on m'a jeté du sucre par la fenêtre et qu'on m'a dit va aller jeter ça à la poubelle. C'est du sucre, madame. J'ai juste pas de sucre pour mettre dans mon café, moi, c'est tout. Ouais, mais vous jetez à la poubelle. Bah, voilà. Ouais, et ça a le don d'énerver, ça. Ça a le don d'énerver. T'arrives, t'es indigent, t'as pas de sous, t'as tout pris. Moi, j'étais dans une affaire de... Je m'en fous, hein, j'étais dans une affaire de stupéfiants, donc on m'a pris tous mes biens.
Oui.
Ce qui fait que quand je suis arrivée, j'étais indigente, on m'a donné 20 euros, on m'a dit « qu'est-ce que vous cantinez ?» J'ai dit des papiers, un stylo et des timbres. Voilà. Et donc, je n'ai pas de sucre. pour mettre dans mon café que des filles m'ont dépanné quand je suis arrivée au quartier des prévenus.
Du coup, en fait, un acte de solidarité, on va dire, non ? Un peu le fait de donner du sucre à quelqu'un, quelque part, on te punit.
J'ai jamais senti d'animosité entre femmes.
Ouais.
J'ai ressenti le fait que voilà, j'aime pas cette nana ou elle m'aime pas, voilà, ça arrive. Hein. Mais j'ai pas. Quand on était en cellule, on était toutes dans la même merde. Et si par exemple mon ennemi était tombé malade, s'il fallait taper aux portes, j'aurais tapé aux portes. Et ça, on était toutes pareilles. Donc il y a quand même cette solidarité qui fait que quand on arrive, voilà, j'ai pas de shampoing, on me donne du shampoing, j'ai pas de pour me raser, on me donne du Vite, espèce de Vite là, je sais plus comment ça s'appelle, leur crème, voilà. Mais ouais, effectivement, on cède parce qu'on face à l'administration pénitentiaire, on est seul face à eux, donc on n'a pas le choix de céder. Donc
Je voulais juste que tu reviennes sur, tu sais, sur l'indigence, parce qu'il y a énormément de prisonniers qui sont indigents. Comment ça se passe pour eux ? Parce que tu t'en as un petit peu parlé, mais j'ai l'impression pas assez, quoi.
Ben, effectivement, alors, c'est clair, pas assez. Alors, par exemple, quand t'es indigent, on te donne 20 euros par mois, avec un espèce de pactage où il y a du sucre, du lait en poudre, très dégueulasse, du chocolat en poudre, deux papiers de rouleau toilette pour le mois. Ça veut dire que c'est, je vais être crue, mais c'est pipi une feuille, caca deux feuilles. Hein. Voilà, c'est pas plus. Hein. Donc, c'est très économique. On nous donne pas de serviettes hygiéniques dans le pactage. Ça veut dire que t'es indigente, t'as pas de règles, hein, apparemment.
Ouais, donc comment tu fais dans ces cas-là ? Tu comptes un peu sur...
Sur les filles.
Hein. Sur les personnes qui peuvent t'aider au sein de la
Exactement.
Prison.
Enfin, Exactement.
Ouais.
Et les timbres ?
Ah, les timbres, tu les cantines.
D'accord, ils t'en filent pas ?
Ils nous en filent un seul, quand on arrive.
Par mois ? Ah, quand t'arrives seulement ?
Non.
Quand
t'arrives ? Après, t'as plus le droit d'écrire.
Ah, d'accord.
Non, après, d'écrire.
Oh, bon mec, il y en a
Non, non.
D'accord.
Généralement, c'est les gens qui te les envoient quand ils t'écrivent des courriers. Enfin, quand ton courrier n'est pas bloqué, bien évidemment. Ouais. Parce que le mien était bloqué, je pense bien.
D'où l'importance d'envoyer des timbres quand on écrit à des prisonniers.
Exactement. Mmh. Exactement, parce que c'est mine de rien, c'est 7,20 €. Alors dehors, 7,20 €, les gens vont me dire, mais c'est rien. Mais en prison, 7,20 €, c'est 7,20 €. Voilà. En prison, une cigarette, La moitié d'une cigarette, c'est la moitié d'une cigarette. C'est tout a de l'importance là-bas. Tout. Pourtant, dehors, j'ai jamais eu de problème pour acheter des cigarettes. Mais le problème, c'est que comme la cantine de cigarettes, c'est une fois par semaine, il faut que tu calcules tout ce que tu vas fumer dans ta journée. Donc, si t'es énervé, tu vas fumer deux paquets. T'avais pas calculé il va te manquer un paquet pour le lendemain. Donc là, c'est pareil. On s'arrange avec les filles, avec comme on peut, quoi. Donc, tiens, tu me payes un paquet de clopes, je te le rembourse la semaine prochaine. Donc, tu vois, c'est voilà.
Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de la gamelle, parce qu'en fait des témoignages que j'avais pu avoir, c'est que la gamelle elle est vraiment minable et que du coup c'est même pas suffisant pour l'apport qui est nécessaire pour chaque individu pour arriver à se maintenir en forme, quoi.